Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, nuit de galère pour des milliers de passagers SNCF dans le sud-ouest.
Près de 3000 voyageurs bloqués, les ennuis ont commencé hier matin. Témoignages et explications dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, pré-rentrée masquée aujourd'hui pour plus de 800 000 enseignants. Nantes qui passe en zone 30 dès ce matin. Pas de limitation de vitesse en revanche pour Julien Alaphilippe qui a retrouvé le maillot jaune sur le Tour de France. À la fin de ce journal, le carnet de route de Laurent Jalabert.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Retour de vacances cauchemardesque pour des milliers de voyageurs SNCF dans le sud-ouest. Tout a commencé hier matin avec un TGV Bayonne-Paris, victime d'un incident. Puis les ennuis se sont enchaînés. Résultat, 3 trains touchés et près de 2000 passagers bloqués en gare d'Andaï. Comme Gabriella et Alexis, leur TGV est parti hier midi d'Andaï avant de revenir à la case départ. Ils ont passé la nuit dans le froid.
Le train était le dortoir proposé. Il fait très très froid, il y a la clim. On a demandé plein de fois s'il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Et bah, visiblement non. Ils nous ont donné un petit plateau repas. Et là, on vient de nous donner une bouteille d'eau. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a des gâteaux. Les trains n'étaient même pas nettoyés quand on les a pris. On préfère même pas parler du Covid ni rien du tout.
C'est un peu compliqué de dormir dans le train. Il fait un peu froid. Il y a un peu trop de lumière. Et voilà, on est fatigué, on attend, c'est un peu long. J'étais censé travailler aujourd'hui, mais bah, du coup, je ne travaillerai pas. Je ne peux pas faire autrement, j'ai rien pour travailler. Donc, apparemment, ce n'est pas avant midi les retours, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Donc, je ne sais pas trop. À mon avis, je pense qu'on n'est pas prêt d'être rentré.
Un témoignage de voyageurs recueilli par Philippe de Maria en gare d'Andaï. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Alors, ces passagers bloqués à Andaï donc, sont censés regagner Paris, mais ce ne sera pas pour tout de suite.
Ah non, car la ligne ferroviaire entre Andaï et Bordeaux est en fait totalement impraticable, et ce jusqu'à demain midi, y compris la voie de secours à cause de sérieux incidents électriques. Une situation extrêmement rare. La SNCF élabore un plan pour que tous les passagers puissent regagner la capitale. 445 passagers ont déjà manifesté ce souhait. La compagnie ferroviaire a d'ailleurs livré 4000 masques en gare d'Andaï. La Croix-Rouge est sur place également pour prendre en charge ces passagers qui ont passé donc une bonne partie de la nuit dans un train.
Alors, il faut rappeler l'origine de ce pataquès. C'est parti d'un problème sur le TGV Bayonne-Paris hier matin.
Oui, hier matin, sur une soixantaine de kilomètres, ce train a endommagé une bonne partie de la ligne, la rendant inutilisable. La SNCF a donc ouvert la voie de secours. Un TGV s'y est engagé, mais il est aussi tombé en panne. Résultat, les passagers ont été transbordés il y a moins d'une heure seulement et devraient rejoindre la capitale en fin de matinée en passant par Bordeaux, presque 24 heures après leur départ hier midi. La SNCF, elle présente ses excuses ce matin et promet une compensation à 200% et la prise en charge de tous les frais annexes.
Merci pour toutes ces explications, Arnaud Touche.
8h03, la France s'apprête à replonger dans l'enfer du mois de janvier 2015.
Avec le coup d'envoi mercredi du procès des attentats djihadistes, l'équipe de Charlie Hebdo décimée, une jeune policière de Montrouge tuée, puis l'exécution de 3 clients et d'un employé de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Jusqu'au 10 novembre, une cour d'assises spéciale aura à juger 14 personnes accusées d'avoir de près ou de loin aidé les frères Kouachi ou Ahmed Koulibaly, qui eux, on le rappelle, ont été abattus. Retour sur ces 3 jours d'horreur, Cindy Hubert.
Ces jours de rentrée, ce mercredi 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. Les blagues fusent, la conférence de rédaction vient de commencer. Vers 11h30, Saïd et Chérif Kouachi, cagoulés et armés de Kalachnikov font irruption dans les locaux du journal.
Carnage dans les locaux de Charlie Hebdo, 12 morts dont les plus grandes signatures des hebdos satiriques. Hein. Charb, Volinsky, Cabu, T-News.
Les terroristes qui ont ouvert le feu à l'arme de guerre sont toujours en fuite. Ils ont quitté les lieux en criant « Nous avons vengé le prophète ».
La chasse à l'homme est lancée. Le 8 janvier au matin, une nouvelle fusillade a lieu à Montrouge, au sud de Paris.
Une policière municipale a été abattue.
Gilet pare-balles sur le dos, il tire à bout portant sur une jeune policière. Clarissa décède quelques heures plus tard. Elle venait de finir sa formation, n'avait que 25 ans.
La traque continue. Le vendredi 9 janvier, les frères Kouachi volent une nouvelle voiture dans l'Oise. Une course-poursuite s'engage. Les deux terroristes se retranchent dans une imprimerie dans la zone industrielle de Dammartin-en-Goële. 40 kilomètres plus loin, une fusillade éclate dans une épicerie juive à l'hypercachère porte de Vincennes à l'est de Paris. Le tireur de Montrouge, Ahmedi Koulibaly, abat 4 clients. Les autres sont pris en otage. Certains vont rester près de 5 heures cachés au sous-sol dans une chambre froide. Ahmedi Koulibaly menace de tuer tout le monde si la police intervient. Mais à Dammartin-en-Goële, les frères Kouachi précipitent les événements. L'assaut est donné de manière quasi simultanée.
Nous allons tout de suite à Dammartin-en-Goële.
Depuis 2 minutes, il y a des coups de feu nourris au niveau du lieu où sont rentrés chez les deux frères Kouachi depuis 7 heures maintenant ici.
Les choses sont en train d'évoluer, porte de Vincennes également.
Trois importantes détonations viennent de retentir avec juste devant cet hypermarché Cachère. Et à l'instant, on entend au loin des échanges de tirs nourris et très importants.
Les trois terroristes sont abattus. Saïd et Chérif Kouachi avaient prêté allégeance à Al-Qaïda au Yémen. Hamedi Coulibaly, lui, a dit agir au nom de l'État islamique. En trois jours, ils ont tué 17 personnes. Tout est pardonné, titreront une de Charlie Hebdo les rescapés du journal. Le dimanche suivant, c'est tout un pays qui descend dans la rue.
Charlie, nous sommes tous Charlie, nous sommes tous Charlie.
Voilà, retour sur ces trois jours de janvier 2015. C'était signé Cindy Hubert et le procès donc dit de Charlie commence mercredi cette semaine.
8h06, Jérôme Florin, rentrée masquée aujourd'hui pour plus de 866 000 enseignants.
Ils reprennent leur marque à la veille de l'arrivée des élèves et à l'heure où l'on parle, ce sont bien 12,5 millions d'enfants et d'ados qui reprennent les cours demain avec un protocole sanitaire parmi les plus stricts d'Europe, pour reprendre les mots de Jean-Michel Blanquer. Bordeaux étant à partir d'aujourd'hui l'obligation du port du masque, c'est tout le centre-ville qui est désormais concerné. Et puis à Paris, où les files d'attente devant les laboratoires sont souvent décourageantes, trois centres de tests gratuits sont mis en place dès ce lundi 9h. Il y en aura d'autres dans les semaines qui viennent. Les précisions du premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire.
On observe une embolie à Paris d'accès aux laboratoires privés avec des délais beaucoup trop longs. Et donc, on a décidé la mise en place de ces structures d'accueil pour organiser des tests sans rendez-vous, gratuits. Et donc, on se présente à sa mairie d'arrondissement pour avoir le test. À partir du 7 septembre, il y aura des barnums fixes dans toutes les mairies d'arrondissement. Mais d'ici le 7 septembre, il y en a trois de fixes, parvis de l'hôtel de ville, mairie du 15e, mairie du 19e. Et dans les autres, ce sont des unités mobiles qui vont tourner dans les arrondissements. Donc, toutes les informations sur paris.fr pour pouvoir aller gratuitement, sans rendez-vous, se faire tester.
Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris avec Morad Jabari. Et puis, ce chiffre symbolique aux États-Unis. On frôle ce matin les 6 millions de cas de contamination au coronavirus depuis le début de la pandémie. Plus de 180 000 Américains en sont morts.
Dans un instant, Nantes qui généralise les 30 km/h. Dès ce matin, beaucoup d'automobilistes ont du mal à comprendre.
On va rouler plus, moins vite, on va polluer plus, on va faire du bouchon. Je vois pas l'intérêt.
On se retrouve dans un instant.
RTL Matin. RTL Matin.
Si vous roulez à Nantes, à partir de ce matin, il ne faudra pas dépasser les 30 km/h.
Hein. Et ce, dans la plupart des rues de la ville, qui est la première grande ville en France à généraliser le passage en zone 30 après Grenoble et Lille. Objectif pour la mairie, je cite, « permettre dans une ville apaisée de renforcer la sécurité de tous ». Les Nantais pourront livrer leurs impressions sur un site dédié et pour l'instant, bien le moins que l'on puisse dire, c'est que les automobilistes sont plutôt réservés pour ne pas dire agacés. Patrice Gabart.
Au volant de sa voiture dans une rue à 30 km/h, Pierre, venu faire quelques emplettes dans le centre-ville, montre son agacement.
J'essaye de venir le moins possible à Nantes parce que ça roule très mal, donc si c'est pour avoir encore plus de difficultés, je viendrai encore moins.
De son côté, Gérald, artisan boulanger-pâtissier, en pleine livraison de pain, dénonce surtout la généralisation de cette limitation de vitesse.
Les 30 km/h, ça a un sens. Dans les petites rues où il n'y a pas beaucoup de place pour les voitures et pour les vélos, et dans les rues plus grandes où il y a déjà un passage vélo, je vois pas l'intérêt. On va rouler plus, moins vite, on va polluer plus. On va faire du bouchon, je vois pas l'intérêt.
Dans le même temps, beaucoup d'automobilistes se disent prêts à lever le pied.
C'est peut-être pas mal parce qu'on va être un peu plus vigilant parce que les gens traversent un petit peu n'importe comment. Donc ça peut-être permettre d'être un petit peu plus serein et moins sur le qui-vive, avoir quelqu'un nous débarquer sur le capot. Je pense que non, c'est une bonne chose à mon avis. Ouais.
C'est une question de volonté.
Et vous l'avez ?
Ouais, je pense.
Et Elisabeth, sur son vélo, applaudit la mesure.
Pour moi, il est grand temps. 30 km/h dans une ville, si vous le rapportez au nombre de kilomètres qui sont quand même minimes quand on circule en ville, c'est pas une différence de temps énorme et c'est une différence de sécurité énorme.
Ce matin, je le rappelle, Nantes passe à 30 km/h sur 600 km.
Reportage de Patrice Gabart. Emmanuel Macron attendu au Liban aujourd'hui dans la soirée. C'est sa deuxième visite depuis l'explosion meurtrière sur le port de Beyrouth. La dernière fois, il avait appelé à une profonde réforme du pays. Appel semble-t-il entendu par le président Michel Aoun qui, dans un discours hier, s'est prononcé en faveur d'un État laïque au Liban. Le temps du changement est venu, affirme Michel Aoun, reconnaissant que le système actuel où les différentes communautés religieuses se partagent le pouvoir est un obstacle à tout développement et même générateur de conflits. Fin de citation.
8h11, la suite du journal de Jérôme Florin et on passe au sport et de 7 pour les Lyonnaises.
L'équipe féminine de l'OL a remporté sa 7e étoile en Ligue des Champions, la 5e d'affilée en battant Wolfsburg, 3-1. En Ligue 1, rentrée réussie. réussi pour Marseille qui a battu Brest 3-2. Victoire de Saint-Etienne contre Lorient 2-0. Tous les résultats sur notre site rtl.fr.
Retour sur le maillot jaune du Tour de France.
Julien Alaphilippe qui a retrouvé hier ce fameux maillot qu'il avait porté l'an dernier pendant 14 jours. Beaucoup d'émotions chez le Français qui a dédié sa victoire d'étape à son père décédé en juin.
RTL Tour de France 2020 avec le carnet de route de Laurent Jalabert.
Laurent, que l'on retrouve avec vous, Christophe Pacaud.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
Superbe maillot jaune sur les épaules de Julien Alaphilippe. Le feuilleton continue. Attendu au tournant, il a répondu présent.
On savait que le terrain était parfait pour lui, on l'attendait, et bien il a répondu présent. Et ça, c'est vraiment la marque des grands champions, être attendu, répondre présent. Il a géré la course comme une classique, en attaquant dans le final, au sommet du Col d'Aise, pour s'élancer dans la descente. Suivi d'Hirschi et d'Adam Yates, et bien il s'est imposé au sprint. Il remporte l'étape et le maillot jaune. Julien Alaphilippe est reparti comme l'année passée.
14 mois après son dernier succès dans le contre-la-montre de Pau.
Bien entendu, l'année passée, Julien Alaphilippe a fait une saison magnifique, presque exceptionnelle même, et il était évidemment attendu cette année, une année particulière, tout le monde le sait. Un début de saison où il était bon, mais forcément marqué parce que c'est un des favoris à chaque fois qu'il s'aligne au départ d'une course. Avoir la pancarte sur le dos et pouvoir gagner ensuite, c'est pas évident. Il faut être à 100% de sa forme. Il a annoncé à la reprise, début août, qu'il avait tout misé sur le Tour de France. Eh bien, il a répondu présent, il a commencé de la meilleure des façons en remportant une étape, il a lancé ce Tour de France avec des confettis partout à Nice. Le voilà en jaune maintenant et pourvu que ça dure.
Superbe champion, on se retrouve pour l'étape du jour à 10h, Laurent Jalabert. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
L'étape du jour, Nice, Sisteron, 198 km. Merci messieurs.
L'histoire du jour, s'il vous plaît.
Bagarre de boules à Marseille. Le mondial de pétanque a viré hier à la foire d'Empoigne entre une équipe belge et une équipe marseillaise en désaccord sur le score. Je vous jure que c'est vrai. Ils se sont mis à courir après nous avec leurs boules, raconte une amie de la triplette belge. La Croix-Rouge a dû intervenir pour soigner les blessés. Les organisateurs du mondial promettent de prendre des mesures. C'est...